Je commence le chapitre 15 de Luc, qui comprend plusieurs paraboles parmi les plus connues. Savez-vous que cela fait chaud au cœur de Dieu lorsqu'un pécheur repentant vient à lui? Eh bien, c'est justement le thème principal des trois premières histoires. Celles-ci sont liées par des thèmes communs, la joie de Dieu, dont je viens de parler, mais aussi quelque chose est égaré puis retrouvé, et en troisième lieu, la progression en valeur de ce qui est perdu. D'abord, une brebis s'égare, puis une pièce d'argent est perdue, et enfin, un fils quitte le bercail familial pour mener une vie en bâton de chaise. Je commence à lire. Les collecteurs d'impôts et autres pécheurs notoires se pressaient tous autour de Jésus, avides d'écouter ses paroles. Les pharisiens et les spécialistes de la loi s'en indignaient et disaient « Cet individu fréquente des pécheurs notoires et s'attable avec eux. » Alors Jésus leur répondit par cette parabole. « Si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée? Et quand il l'a retrouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener? Aussitôt rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Venez partager ma joie, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. » À la répugnance des chefs religieux, Jésus s'associait à des gens de mauvaise vie se rendant ainsi rituellement impurs. C'est d'abord pour remettre en place les pharisiens qu'il raconte l'histoire de la brebis perdue. Cet animal sans défense représente les parias, les pécheurs notoires, ceux qui étaient considérés comme maudits par les chefs religieux. Les 99 autres sont les chefs religieux suffisants à eux-mêmes qui se croient justes et pour qui il est donc hors de question de se repentir de quoi que ce soit. Pourtant, la repentance est l'étape incontournable de l'entrée dans le royaume et est régulièrement sous-entendue dans les discours de Jésus. Sous le régime de la loi, le grand prêtre était revêtu d'un habit de cérémonie qui comportait deux pierres précieuses sur lesquelles étaient gravés les noms des 12 tribus d'Israël. Quand il officiait dans le tabernacle, le temple portable, il représentait symboliquement les enfants d'Israël devant l'Éternel. Jésus est le grand prêtre de la Nouvelle Alliance et il porte sur ses épaules tous ceux qui lui ont fait confiance. Je continue avec la seconde parabole. Ou bien, supposez qu'une femme ait 10 pièces d'argent et qu'elle en perde une. Ne s'empressera-t-elle pas d'allumer une lampe, de balayer sa maison et de chercher soigneusement dans tous les recoins jusqu'à ce qu'elle ait retrouvé sa pièce? Et quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue ». De même, je vous le déclare, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui change de vie. Versets 8 à 10. Le message est le même que pour la brebis perdue. Mais cette fois-ci, c'est l'ampleur de la recherche qui est soulignée. Ces 10 pièces formaient un collier de mariée. En égarer une équivalait à la perte du diamant serti dans une alliance. C'était son bien inaliénable le plus précieux. Alors on comprend l'affolement de cette femme. Les gens de mauvaise vie auxquels Jésus s'associait avaient une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Je continue avec une des paraboles les plus célèbres de Jésus. Puis il poursuivit. Un homme avait deux fils. Le plus jeune lui dit « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Quelques jours plus tard, le cadet vendit tout ce qu'il avait reçu et s'en alla dans un pays lointain. Là, il gaspilla sa fortune en menant grande vie. Versets 11 à 13. Le point central de cette histoire va résider dans le contraste entre ces deux fils. L'homme représente Dieu et ses enfants, deux catégories de gens. Le père n'a pas essayé de retenir son fils parce que sa décision était irrévocable. Ce jeune homme est une vraie peau de vache. Non seulement il entre en possession d'une partie de la propriété familiale avant la mort de son père, mais il la vend. Dans le contexte de l'époque, un tel comportement est des plus choquants car il équivaut à considérer le père comme mort. Il humilie ainsi toute sa famille devant les habitants de la ville. C'est un fils qui fait honte, comme le dit ce proverbe de l'Ancien Testament que je cite. « Qui recherche la compagnie des jouisseurs fait honte à son père. » Fin de citation. Ce cadet se rend dans un pays païen où il mène une vie de patachon, de bâton de chaise. Tout ce qu'il y a de plus débridé. Ceux qui écoutaient ont tout de suite compris que ce jeune fils représentait les gens de mauvaise vie à qui Jésus s'associait. L'aîné, quant à lui, demeure auprès de son père et continue sa vie sobre et bien rangée. Je continue. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là et il commença à manquer du nécessaire. Alors, il alla se faire embaucher par l'un des propriétaires de la contrée. Celui-ci l'envoya dans les champs garder les porcs. Le jeune homme aurait bien voulu apaiser sa faim avec les caroubes que mangeaient les bêtes, mais personne ne lui en donnait. Versets 14 à 16. Les temps sont très durs et ce fils doit s'adonner à une tâche méprisable pour un juif. Il n'aurait pas pu tomber plus bas. Je continue. Alors, il se mit à réfléchir sur lui-même et se dit « Tous les ouvriers de mon père peuvent manger autant qu'ils veulent, alors que moi, je suis ici, à mourir de faim. Je vais me mettre en route. J'irai trouver mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. Accepte-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se mit donc en route pour se rendre chez son père. Versets 17 à 19. Au plus bas de sa condition, il réfléchit intelligemment et reconnaît le méfait gigantesque qu'il a commis. Il croit que son père l'engagera au même titre qu'un journalier. Il prend une décision et la met en action. Non seulement il s'est rendu compte de son erreur, mais il agit et quitte le pays païen, les pourceaux, son malheur et le reste. Il aurait pu se lamenter sur son sort, s'apitoyer sur lui-même et continuer son train-train de misère. Non, il prend la route. La vraie repentance est une action concrète. Je continue. Comme il se trouvait encore à une bonne distance de la maison, son père l'aperçut et fut pris d'une profonde pitié pour lui. Il courut à la rencontre de son fils, se jeta à son cou et l'embrassa longuement. Verset 20. Jour après jour, le père se rendait jusqu'à la limite de la propriété familiale et scrutait l'horizon dans l'espoir d'apercevoir son fils dans le lointain revenant à lui. Ce jour-là, il distingue la silhouette de son fils. Son rêve se réalise. Vite, il relève les pans de sa robe et se met à courir, ce qui est une attitude très inhabituelle et humiliante pour un riche propriétaire foncier de Palestine. Mais, dans la joie de retrouver son fils bien-aimé, on y soit qui malédise. Il se moque bien des apparences et du qu'en dira-t-on. Il se jette à son cou. Rien n'arrête ses effusions, ni les vêtements sales, ni l'odeur de porc, ni ses cheveux crasseux. Je continue. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite plus d'être considéré comme ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Allez vite, cherchez un habit, le meilleur que vous trouverez, et mettez-le-lui, passez-lui une bague au doigt, et chaussez-le de sandales, amenez le veau que nous avons engraissé et tuez-le. Nous allons faire un grand festin et nous réjouir, car voici, mon fils était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et je l'ai retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer dans la joie. Versets 21-24. Le fils se met à confesser le mal qu'il a commis contre Dieu et le tort terrible qu'il a causé à son père. Mais ce dernier ne le laisse pas terminer et lui accorde à nouveau la position de fils, comme si rien ne s'était passé entre eux. Il ordonne également un festin en son honneur, ce qui, bien sûr, est une image du royaume que Dieu prépare pour tous ceux qui viendront à Jésus-Christ pour obtenir le pardon de leurs fautes. Cependant, il y a un autre fils. Je continue. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait au champ. Sur le chemin du retour, quand il arriva près de la maison, il entendit de la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le garçon lui répondit, « C'est ton frère qui est de retour. Ton père a tué le veau gras en son honneur parce qu'il l'a retrouvé sain et sauf. » Alors, le fils aîné se mit en colère et refusa de franchir le seuil de la maison. Son père sortit et l'invita à entrer. Mais lui répondit, « Cela fait tant et tant d'années que je suis à ton service. Jamais je n'ai désobéi à tes ordres et pas une seule fois tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là revient, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu tues le veau gras. » Versets 25 à 30. Ce fils aîné représente les chefs religieux. Leur manque d'amour et de générosité révèle leur profonde méconnaissance de Dieu et témoigne d'une vie religieuse dénuée de réalité. Ils n'appréciaient pas du tout le message de Jésus comme quoi les gens de mauvaise vie et les païens auraient part au royaume qui, croyaient-ils, leur revenait de droit parce qu'ils étaient, d'une part, descendants d'Abraham, et d'autre part, obéissaient à des rites à n'en plus finir. Fait intéressant, il est dit, son père sortit et l'invita à entrer, afin qu'il prenne part aux réjouissances. Mais ce dernier se rebelle, tout comme les religieux qui refusent de participer au royaume. Pourtant, Jésus mangeait aussi bien avec les parias qu'avec les pharisiens. Il ne voulait exclure personne. L'ironie de la situation est que le plus jeune fils qui avait voulu revenir comme un serviteur est accueilli comme un fils, alors que l'aîné, qui avait toujours été un fils, se comporte comme un journalier servile qui ne travaille que pour un salaire. Je finis l'histoire. « Mon enfant !» lui dit le père, « Tu es constamment avec moi, et tous mes biens sont à toi, mais il fallait bien faire une fête et nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, puisqu'il était perdu et voici qu'il est retrouvé. » Versets 31-32. En mangeant avec des gens de mauvaise vie qui acceptent humblement de reconnaître leur culpabilité, Jésus exprime la joie avec laquelle Dieu est prêt à les accueillir les bras grands ouverts, alors que les deux premières paraboles sont présentées sous forme interrogative, la troisième n'a pas de conclusion. On ne sait pas ce que le fils aîné décide de faire. Jésus invite par là les religieux à se joindre au repas de fête et à s'associer ainsi au plan de salut de Dieu. Nous voici au chapitre 16 de Luc, qui prolonge le thème précédemment traité, la participation des pécheurs repentants au banquet du royaume. Jésus raconte deux paraboles spécifiques à cet évangile et qui ont les richesses pour support. Il y a tout d'abord celle de l'économe infidèle, qui est adressée en priorité aux disciples. Elle rappelle l'ambiguïté de l'argent et m'enseigne à utiliser mes biens pour l'avancement du plan de Dieu. Dans la deuxième, celle du riche et de Lazare, Jésus renvoie les pharisiens à l'injustice de leur gestion des biens matériels. Mais en plus, cette histoire répond à une interrogation que tous les hommes de toutes les époques se sont posées. Qu'y a-t-il de l'autre côté dans l'au-delà? Je commence à lire. Jésus dit encore à ses disciples, « Un grand propriétaire avait un gérant. On vint lui dénoncer sa conduite, car il gaspillait ses biens. » Verset 1. Cet homme était chargé de gérer les biens de son maître. C'était un administrateur financier ou fiduciaire des temps modernes. Mais c'est un escroc de la plus belle espèce. Il s'était comporté comme un employé de banque qui se serait enfui avec la caisse. Je continue à lire. Le maître le fit appeler et lui dit « Qu'est-ce que j'apprends à ton sujet ? Remets-moi les comptes de ta gestion, car tu ne continueras pas à gérer mes affaires. » Le gérant se dit « Que vais-je faire, puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens ? Travailler comme ouvrier agricole ? Je n'en ai pas la force. Me mettre à mendier ? J'en aurai honte. Ah ! Je sais ce que je vais faire pour que des gens me reçoivent chez eux lorsque j'aurai perdu ma place. » Versets 2 à 4. Cet escroc, tout comme les gérants des grandes sociétés de notre époque, est admiré à cause de sa notoriété, position sociale enviable et ses richesses. Maintenant que le pot aux roses est découvert, il a beaucoup à perdre et c'est pour ça qu'il se creuse les méninges, se demandant comment il va s'en sortir. Je continue le texte. Là-dessus, il fait venir un à un tous les débiteurs de son maître. Il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître ?»« 40 hectolitres d'huile d'olive, » lui répond celui-ci. « Voici ta reconnaissance de dette, » lui dit le gérant. « Assis-toi là, dépêche-toi et inscris 20 hectolitres. » Ensuite, il dit à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » 500 sacs de blé. « Prends ta reconnaissance de dette, » reprend le gérant, « et inscris-en 400. » Versets 5 à 7. Loin de se repentir de sa malhonnêteté, ce gérant véreux décide d'exploiter sa position une dernière fois pour se faire des amis qui lui revaudront ça une fois licencié. Il est très adroit et se conduit de manière brillante, mais cela ne signifie aucunement que Dieu approuve sa conduite malhonnête. En effet, les Écritures m'exhortent à mener une vie droite au-dessus de tout soupçon, sans me laisser influencer par les fausses valeurs de ce monde. Voici ce que dit le Nouveau Testament à ce sujet. N'aimez pas le monde, ni rien de ce qui fait partie de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour pour le Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui fait partie du monde, les mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder ce qui attire les regards et l'orgueil qu'inspirent les biens matériels, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Tout comme celui qui vous a appelé est saint, soyez saints dans tout votre comportement. » Fin de citation. Je continue avec la réaction surprenante du patron de ce vieux filou. Le maître admira l'habileté avec laquelle ce gérant malhonnête s'y était pris. En effet, les enfants de ce monde sont plus avisés dans leurs affaires avec leurs semblables que les enfants de la lumière. Verset 8. Le patron n'admire pas son gérant pour sa malhonnêteté, qui lui coûte un maximum, mais pour son habileté. Il reconnaît que le malin s'y était bien pris. Il s'était montré avisé et avait eu la prudence d'utiliser les choses de ce bas monde avec adresse pour assurer son avenir. Les expressions « enfant de ce monde » et « enfant de lumière » sont mises en parallèle dans le texte originel. Ceux qui vivent dans ce monde comprennent fort bien comment celui-ci fonctionne, alors que les disciples du Christ saisissent très mal les règles spirituelles et ne savent pas comment utiliser leurs biens avec sagesse afin d'avancer leur position dans le royaume à venir. Je continue. Et moi, je vous déclare, si vous avez de ces richesses entachées d'injustice, utilisez-les pour vous faire des amis. Ainsi, le jour où elles vous échapperont, ils vous accueilleront dans les demeures éternelles. Verset 9. Jésus souligne souvent que les richesses sont amassées par des moyens injustes, c'est-à-dire en exploitant autrui. Vous en doutez? Sachez par exemple qu'à peu près la totalité des billets de banque usagés en circulation aux États-Unis portent des traces de cocaïne. Les disciples devraient donc employer leurs biens terrestres pour l'avancement de la cause de Jésus-Christ, en amenant d'autres personnes à accepter le message du royaume. Ainsi, ils s'amasseront un trésor dans le ciel. Je continue. Si quelqu'un est fidèle dans les petites choses, on peut aussi lui faire confiance pour ce qui est important. Mais celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne l'est pas non plus pour ce qui est important. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans la gestion des richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Si vous n'avez pas été fidèle dans la gestion du bien d'autrui, qui vous donnera celui qui vous est personnellement destiné? Versets 10 à 12. Du point de vue de Jésus-Christ, mes richesses sont la propriété de Dieu qui m'en a confié la gérance en attendant la venue de son royaume. Ceux qui auront été fidèles dans leur gestion, selon les principes éthiques de la loi et du Nouveau Testament, recevront en partage des biens spirituels durables et éternels. Ceux-ci ne seront plus liés au monde déchu et injuste qu'est le nôtre. Ils me seront donnés pour toujours et correspondront au degré de fidélité que j'aurai montré pour la cause de Jésus-Christ. Et sur ces paroles, je termine pour aujourd'hui.